Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Eli Lemel, les paroles du Rav sont attendues ce soir parce qu'on vit des moments qui sont graves. Ceux qui sont partis à la Griba pour un moment de famille, un moment bienveillant, ont été attaqués, visés. Et donc on est, comme toujours dans ces cas-là, tous solidaires les uns les autres. Tout le monde s'intéresse, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu avais des gens que tu connais là-bas. Mais il est rare, et heureusement d'ailleurs que ce soit rare, qu'en même temps, on a pour le coup tous nos frères qui sont en Israël, qui sont touchés par les attaques, le terrorisme. Je comptais ce matin, puisque je suis là pour ça, malheureusement. Ce matin, je pense que ça a dû changer. Ce matin, 804 roquettes depuis le début des opérations. On s'imagine 804 missiles sur des villes, des villages. Je ne veux pas être trop sentencieux, mais c'est très dur et très lourd. Donc on attend un peu les paroles du Rav d'abord. On dit que voilà... cet après-midi, on doit entrer dans la douceur et surtout apprendre à être joyeux. Voilà. Quelles sont les paroles qui vous viennent à l'esprit et qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, Rav Eli Lemel?
Oui, en effet, c'est vrai qu'on est à nouveau touché de manière très très forte, très bouleversante. Alors, comme vous le disiez il y a quelques instants, il y a ce qu'on appelle les paroles sentencieuses. Vous savez, on connaît quasiment ces paroles qui viennent prononcer. Évidemment, quand on est confronté à ce genre de situation, un des enjeux majeurs, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est en train de nous dire et qu'est-ce qu'il faut qu'on en prenne. Ceux qui, évidemment, ont disparu à la Griba, dans un moment dans lequel, en effet, eh bien, on essayait de développer une rencontre pour se retrouver dans un lieu quand même très, très particulier, eh bien, Yad Hashem, la main d'Akadosh Baruch Hu, les a frappés, qu'on le veuille ou pas. C'est passé par des terroristes, mais derrière cela, eh bien, le créateur de l'univers nous dit quelque chose. Alors eux, malheureusement, eh bien, ce sont des kedoshim, ce sont des gens qui sont considérés comme saints. Ils sont morts al kiddush Hashem, sur la sanctification du nom de Dieu, car nos maîtres nous expliquent et nous disent que toute personne qui est tuée parce que juive, eh bien, ça s'appelle al kiddush Hashem, ça s'appelle pour la sanctification du nom d'Hashem. Et peut-être que nous, notre question est de savoir, est-ce que nous, aujourd'hui, nous essayons de sanctifier le nom de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que ça doit toujours passer à travers ce genre d'événements? Ou alors, est-ce que la sanctification du nom de Dieu, eh bien, ça passe aussi à travers une démarche positive au quotidien dans laquelle on essaye de nous montrer en premier lieu à nous-mêmes. Et puis après, de montrer à celles et à ceux qui sont autour de nous ô combien la parole d'Hachem est importante et combien nous essayons dans notre vie de nous comporter le mieux possible parce que nous sommes dépositaires d'un message particulier. Ça, c'est peut-être la première chose. Et puis, en Eretz Israël, eh bien, oui, en effet, le bruit des sirènes, le bruit du dôme de fer. Alors, ce matin, j'ai reçu une vidéo assez impressionnante dans laquelle, eh bien, on voit 150 soldats qui viennent de célébrer un sioum, c'est-à-dire la conclusion, chacun d'un traité du Talmud, et qui chantent et qui dansent ensemble, et la personne mettait en dessous, voilà aussi notre kippat barzel, notre dôme de fer. Eh bien, c'est peut-être aussi pour nous rappeler que nous avons besoin d'être solidaires les uns des autres autour des valeurs de la Torah, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas sans arrêt se dire, bon, d'un côté, il y a les pratiquants, les non-pratiquants, les laïcs, les religieux, les orthodoxes. Non, le Klal Israël est un, mais il est un autour des valeurs de la Torah. Alors certains, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas pris conscience de la dimension fondamentale de ces valeurs et ô combien eh bien, nous devons nous tourner vers ce qui est au cœur même de notre identité, c'est-à-dire l'univers de Torah Mitzvot. Vous savez, aujourd'hui, on aime bien avoir ce genre de discours de respect, de tolérance, alors qu'on n'est pas là ni pour respecter ni pour tolérer. parce que si je dis que je tolère l'autre, c'est-à-dire que je suis moi-même la référence et je veux bien de l'autre. Non, pas du tout. Le Klal Israël, c'est un corps. Ce corps-là, eh bien, quand un des membres est touché, c'est la totalité du corps qui a mal. Et ça, c'est quelque chose qui est du domaine de l'évidence. Mais Eret Israël beli Torah, que gouf beli Nshama. Eret Israël sans Torah, c'est comme un corps sans âme. Ne l'oublions pas. Alors, malheureusement, aujourd'hui, eh bien, ce qui manque beaucoup, c'est le savoir, c'est la connaissance, la capacité de s'extraire de nos certitudes et de nous tourner peut-être un peu plus vers la dimension essentielle qui est cette spiritualité qui est au cœur même de l'identité juive et qui doit être au centre aussi de la vie de tout être humain. Voilà ce que ça m'inspire, avec évidemment cette nécessité de faire la tfila. Vous savez, on sait que toutes les personnes qui s'agressent malheureusement, parce que je n'ai pas d'autre mot, autour de ces combats, Cour suprême et toutes ces choses-là, ont toutes eu les mêmes messages au moment où ces roquettes nous sont tombées dessus. Est-ce que ça veut dire que, à nouveau, on doit se rappeler que on doit être ensemble? Malheureusement, peut-être oui, et j'ose espérer que nous n'aurons pas besoin dans les prochains jours d'avoir cela pour pouvoir décider que nous sommes Am Echad, un peuple unique, un peuple uni, un peuple qui doit véhiculer ses valeurs fièrement, les revendiquer et surtout tout faire pour qu'elles s'expriment dans une manière d'être qui est le Kiddushem Shamaim, la sanctification du nom de Dieu.
Alors, avec ces paroles très fortes, c'est aussi l'occasion de nous rappeler, puisqu'il y a eu aussi l'attentat à la Grima, donc en Tunisie, que dans cette notion de Amirad, un seul peuple tous ensemble, il y a ceux qui sont en Israël, il y a ceux qui sont partout à travers le monde, et donc ça nous englobe nous aussi. Rav Lemel, avec votre permission, mais je sais que je l'ai, je voudrais qu'on dédie notre émission à une personne, Lilou Nishmat, puisque Rav Mordechai Biton, qui participe à notre émission de chaque semaine, n'est pas avec nous cette semaine car il a perdu sa sœur. Et je voudrais dédier notre cours de ce soir à Leilui Nishmat, Michel Michal Chabiba. Chabiba, je crois que c'est comme Chaviv en hébreu, Bat Simcha, c'est-à-dire quelqu'un de cher. Je redis, Michel Michal Chabiba Bat Simcha, qui est donc la sœur de notre ami Rav Mordechai Biton. Et nous associons aussi toutes les victimes de la Griba et ceux qui sont en Israël. Rav Eli Lemel, nous sommes dans Berukotai. Et alors Berukotai dit l'un des principes essentiels du judaïsme, mais bien sûr comme pour beaucoup de choses, à Torah, moi je ne comprends pas grand chose, je les répète mais je ne comprends pas, et donc vous allez pouvoir nous éclairer un peu. En fait le principe c'est le suivant: Im Berukotai Tilchou, si vous allez dans mes commandements, qui plus est les plus durs à comprendre, les roukotes, je ne sais pas comment on dit, les constitutions, on dit en français, si vous allez dans mes commandements, alors vous serez bénis. Donc c'est un pacte entre nous et le ciel, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment on dépasse le simple idée de si je fais ça, on va me taper sur les doigts, comment aller plus profondément dans les choses, et en fait qu'est-ce que ça veut dire, quoi?
Exact. Alors, on est en effet dans ces deux dernières sidrotes qui concluent le livre de Vaïkra, Bar Berukotai. Et Berukotai, commence par ce fameux terme de im, si. Berukotai telechu. Alors, si on fait une traduction littérale, elle serait la suivante: si vous littéralement marchez dans mes statuts, c'est-à-dire dans mes chukim, donc dans ces lois qui a priori sont incompréhensibles, vet mitzvotai tishmeru, et que vous gardez mes mitzvot, va asitem otam, et que vous les fassiez, à ce moment-là, Dieu nous dit, venatati kishmechem beitam, je vous enverrai, et à la fois la pluie en son temps, etc., etc., toutes les brachot. Donc, déjà, ce qui est très intéressant ici, c'est ce terme de im, c'est-à-dire, et si, la notion conditionnelle, Akadosh Baruch Hu est en train de dire à son peuple, sachez qu'au fond, tout dépend de vous. Tout dépend de vous, et de la manière dont vous allez vous positionner par rapport au monde de la Torah et des Mitzvot. Et alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a plusieurs termes qui sont utilisés. Tout d'abord, Berukotai Telechu, que vous marchiez dans mes chukim, dans mes statuts, c'est-à-dire, au fond, que vous puissiez avancer dans l'univers en assumant pleinement qu'il y a ce qu'on appelle des choukim, c'est-à-dire des lois qui a priori nous semblent incompréhensibles, l'interdiction de mélanger du lin et de la laine dans les vêtements par exemple, et marcher, avancer de cette manière, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'assumer qu'il y a peut-être des choses qui nous paraissent être incompréhensibles, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas les accomplir. Il y a ici, en effet, l'expression de la foi profonde qu'a le peuple juif dans la parole divine, sachant que tous les actes que nous allons faire ont un impact, pas juste dans notre vie, mais au niveau de l'univers. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une dimension beaucoup plus profonde. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est-à-dire, imbrukotai telehu, marcher et avancer de cette manière. Vet mitzvotai tishmeru, et que vous gardiez mes mitzvot. C'est-à-dire, la notion de garder, c'est être capable de donner de l'importance à une chose. Je l'ai souvent dit d'ailleurs, et je pense que j'ai même dû une fois le dire sur cette antenne, que le mot shomer, garder, quand on dit qu'on est shomer Shabbat, on garde le Shabbat. Shabbat n'a pas besoin d'être gardé. Shomer, ce sont les mêmes lettres que le mot Rochem et Morish. Ce sont trois mots qui ont les mêmes lettres. Et shomer, ça veut dire garder. Rochem, ça veut dire noter. Morish, ça veut dire faire hériter. Et le point commun entre les trois, c'est que c'est une notion d'importance. On garde une chose qui a de la valeur, on note des choses parce qu'elles sont importantes, on fait hériter une chose qui a une valeur, ne serait-ce que symbolique. Dieu dit, donc déjà avancer dans le monde avec cette force de dire oui, il y a des choses qui peut-être parfois nous dépassent radicalement, mais ils sont l'expression de la parole divine, donc c'est la raison pour laquelle on est à leur écoute. Seconde chose, nous donnons de l'importance aux mitzvot. Elles représentent quelque chose de fondamental. Va asitem otam, et après nous allons les accomplir. C'est-à-dire, c'est un état d'esprit que l'on doit avoir. C'est pas juste, on fait notre mitzvah, chic alors, super, on a fait notre béa, et puis on passe à autre chose. Bien sûr que quelqu'un qui accomplit une mitzvah, ne serait-ce que dans cet état d'esprit, c'est déjà génial. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Ça, au fond, c'est ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire de rentrer un petit peu plus dans un monde de profondeur, de rentrer dans un univers dans lequel on accepte qu'il y a des choses qui nous dépassent radicalement et malgré tout on les fait, on donne de l'importance aux mitzvot, vasitem otam, et on les fera. Mais aussi nos maîtres nous disent, et je conclure là-dessus, que imbrukotai telehu, il y a cette notion de shetiu amelim batora, de faire des efforts dans l'étude de la Torah, parce que nous avons l'obligation de comprendre, de percevoir, de rentrer en profondeur dans la génialité absolue de ce texte, et au fond, c'est ce qui nous ouvre très fortement vers la fête de Shavuot qui arrive bientôt, c'est-à-dire se rappeler que l'étude de la Torah va être un élément fondamental dans la construction de l'identité juive, et c'est tout cela en vérité qui crée le peuple d'Israël, et à nous de savoir, pas juste le dire, mais savoir l'appliquer dans notre réalité quotidienne, voilà un petit peu, en tout cas, les quelques petits enseignements que l'on peut déjà prendre à partir de ce verset.
Bien, on va essayer de méditer, essayer de... Ben, je crois d'ailleurs que vous, les rabbinim, vous nous dites, ben, je ne parle évidemment pas à votre place, mais on entend souvent, essayez, on vous demande d'essayer. Personne ne vous dit que vous serez parfait, essayez. Alors on va essayer, déjà en parlant par exemple, et en faisant une partie de notre dîner de ce soir. Ravi Lilemel, je vous remercie, bonsoir à vous. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Kabbalat Shabbat. Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Rav Mordechai Biton, bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles pour toi, Israël.
Amen. Bezrat Hashem. Rav Mordechai Biton, vous voyez dans notre parasha de cette semaine un lien très étonnant entre assiduité dans l'étude de la Torah et terre d'Israël. On voit pas trop le rapport, parce que, je sais pas, parce que c'est vous qui allez nous l'expliquer. On peut comprendre, je sais pas, le rapport entre... pas d'idolâtrie en Israël. Alors bon, je vois bien, il n'en faut jamais, mais bon. Mais pourquoi étudier la Torah? C'est partout. Alors pourquoi il y aurait un lien entre assiduité de l'étude et Eretz Israël?
Ah oui, absolument. C'est un lien qui est surprenant, comme vous l'avez dit. Dans les parachas précédentes, on a vu le lien entre la sainteté des comportements ou la propreté des comportements et le fait de mériter Eretz Israël, puisque là-bas, il est indiqué que la terre va vomir ceux qui se livrent à la débauche, ceux qui se livrent à l'idolâtrie. Mais là, dans cette paracha, paracha de Bechukotai, elle commence en nous disant « Vim Bechukotai Telechou, si vous êtes assidus, si vous vous donnez de la peine dans l'étude de la Torah, alors je mettrai le shalom en Israël. » Et mieux que cela, même les peuples qui se battront ne passeront pas par Eretz Israël avec leurs armées pour aller se battre, pour aller guerroyer les uns contre les autres. Vous serez complètement en dehors des guerres, vous aurez la paix absolue, et vous aurez la bracha, vous aurez la bénédiction. Alors pour le comprendre, il faut revenir ici à un point qui est tout à fait fondamental. Pourquoi est-ce qu'on a reçu Eretz Israël ? On a reçu Eretz Israël pour trois raisons. La première, c'est pour y construire le Beth Amikdash et pour y faire des sacrifices. La deuxième, c'est pour y accomplir les mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël, la Shemitah, les prélèvements, les maaser, etc. Mais tout ça ne peut marcher qu'à une seule condition, c'est que les gens étudient la Torah. Et que les gens étudient la Torah pas seulement pour savoir quoi faire, comment se comporter, et pas seulement parce que la Torah est une source inépuisable de sagesse, d'intelligence et de compréhension du monde dans lequel on vit, mais aussi pour muscler leur lien avec Hachem. Il faut rappeler ici ce qui est marqué dans les lois de l'étude de la Torah. À la question de savoir pourquoi on a perdu Eretz Israël, pas pourquoi le temple a été détruit, pourquoi on a perdu Eretz Israël lors de la destruction du premier temple, on a été exilé d'Eretz Israël. La réponse de la Gemara est Al Shelo Baruchu Batorah Trila. Il récitait pas la bénédiction avant d'étudier la Torah. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il voyait dans la Torah simplement une intelligence, une sagesse, une science du comportement, mais il voyait pas dans la Torah un outil de lien renforcé avec Hachem. Et au fond, c'est ça que la Torah nous a été donnée. Et Eretz Israël, c'est un endroit dans lequel le peuple juif peut se rassembler pour accomplir un certain nombre de mitzvot, mais surtout pour renforcer son lien avec Hachem. Quoi de mieux pour renforcer son lien avec Hachem que de parler sa langue, de parler son langage, de parler de l'intérieur de ce langage, c'est-à-dire de l'étudier, de le connaître dans son intimité la plus absolue. C'est ce que la Torah nous dit ici. Et c'est intéressant parce qu'on voit que finalement ce contrat, concernant l'étude de la Torah, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il n'est pas seulement pour Eretz Israël, il est partout. Partout où la Torah a disparu comme valeur dynamique et centrale de la vie juive, eh bien le judaïsme a disparu, et plus tard les juifs ont disparu, et plus tard tout a disparu. Il y a une étude qui a été publiée par Sergio Della Pergola il y a environ une quarantaine d'années, hein, ça date déjà de ça, depuis il y a eu d'autres études, mais qui montre que l'assimilation, et donc l'assimilation commence toujours avec une désertion de l'étude de la Torah, et une ignorance complète, et l'assimilation a fait qu'il manque aujourd'hui à l'appel 134 millions de juifs. On devrait être 134 millions aujourd'hui. Et on n'est que 14 millions. Il manque 120 millions. 120 millions de gens qui se sont assimilés. Mais où ça commence l'assimilation ? Quand on ne comprend pas ce qu'on fait. Et pourquoi on ne comprend pas ce qu'on fait ? Parce qu'on ne le vit pas. Et pourquoi on ne le vit pas ? Parce qu'on ne l'étudie pas. Et pourquoi on ne l'étudie pas ? Parce qu'on veut déserter l'intimité du lien avec Hachem. Et ça, c'est ce que cette paracha nous révèle. On a une tradition également de Nachmanide qui nous dit que les malédictions qui sont marquées dans cette paracha sont liées à l'exil, annoncent l'exil du premier temple, et que celles qui sont marquées dans la paracha de Kitavo, qu'on va lire dans le Deutéronome, dans Dvarim, ça nous annonce plutôt, font plutôt référence à l'exil du deuxième temple, celui dans lequel on vit encore aujourd'hui. Dans ce premier exil, dans ces malédictions qui sont lues ici, à la fin, une fois que Dieu énonce ce qui va être constitutif à la rupture de l'alliance avec lui, le texte se termine en disant que malgré tout, lorsqu'on sera sur les terres de nos ennemis ou on sera exilé, Dieu ne va pas nous rejeter, ne va pas nous tenir en abomination, il ira nous chercher. Cette promesse, elle est faite également dans la paracha Nitzavim et Vayelech, après la paracha de Kitavo, à la fin donc à la fin du Deutéronome. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une désertion du peuple juif, s'ensuit un exil de l'intelligence, un exil culturel, philosophique, religieux, spirituel, et donc après une désertion et un exil physique. Mais Hachem va nous chercher. Et vous voyez, c'était très intéressant parce que c'est ce qu'on a vécu finalement ces dernières années, ces 30 dernières années, où on a vu un retour massif des juifs, pas seulement au mitzvot, mais à l'étude de la Torah. Aujourd'hui en Israël, il y a le plus grand rassemblement de gens étudiant la Torah, certainement depuis l'époque des rois. Même à l'époque des Tanaïm, à l'époque des sages de la Mishnah, il n'y avait pas autant de juifs qui étudiaient la Torah. Les grands centres d'études de la Torah sont aujourd'hui en Eretz Israël. Et le mérite qu'on a d'habiter en Eretz Israël, il tient d'abord et avant tout sur l'étude de la Torah et sur le soutien à cette étude de la Torah. Je rappelle que cette semaine, le gouvernement israélien doit prendre des décisions concernant le soutien aux yeshivot et concernant l'enrôlement des étudiants des yeshivot, et les rabbanim ne cessent de dire que les charidim aillent à l'armée. Il y a plein de charidim dans l'armée, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les bachurim de yeshivot, ceux qui étudient la Torah, les bachurim et les avrichim, ils participent au peuplement d'Israël et à la stabilité de ce peuplement par leur étude de la Torah. Tout le monde en bénéficie. Pour le comprendre, il faut lire Parashat Berukotai et croire dans ce qui est marqué dans Parashat Berukotai, et peut-être même d'une certaine manière croire en Dieu. Il faut peut-être commencer par le commencement, comme le dit Rav Mordechai Negorchel dans toutes ses conférences. Donc je crois qu'il y a ici une réflexion qui est à la fois une réflexion de fond sur l'identité juive, mais il y a également une réflexion sur l'actualité. Il y a ici une interpellation très très forte, et en plus c'est une coïncidence. C'est cette semaine où on lit Parashat Berukotai que le gouvernement doit se prononcer donc sur cette question. Il y a donc ici quelque chose de très crucial, et j'invite à chacun à y réfléchir, tout simplement, parce que la table du Shabbat est faite pour bien manger, bien chanter, mais également pour dire des divrei Torah et réfléchir sur des questions importantes. Voilà, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, que Hashem protège son peuple, protège nos soldats, que Hashem nous aide à étudier la Torah, que Hashem nous aide à grandir, à nous approcher de lui.
Shabbat Shalom, Rav Mordechai, mais juste une précision, parce qu'évidemment on est passionné par ce que vous dites. Vous avez dit qu'il y a autant de gens, ou peut-être même plus de gens qui étudient la Torah aujourd'hui qu'à l'époque des Tanaïm, si j'ai bien compris. Mais parce que, tout simplement, ils étaient moins nombreux. On était à l'époque des Romains, il y avait très peu de gens. Ou bien non, il y a...
Non, on était le peuple juif comptait à cette époque-là environ 7 à 8 millions de juifs répertoriés. Là, aujourd'hui, 14 millions de juifs répertoriés. Mais enfin, c'est proportionnellement important. On est aujourd'hui à pas loin de 287 000 personnes entre 6 et 36 ans qui étudient à temps plein. Donc c'est absolument... Il faut se rappeler quand même que tous ces gens-là sont des gens qui enseignent et que ce sont des gens qui participent à la vie économique, à la vie intellectuelle du pays. Donc ils apportent énormément, contrairement à ce que veulent dire certains.
J'avais demandé à Rav Rosenberg et il m'avait dit, sur le shtetl, il m'a dit on est plus nombreux à étudier que... Dans le shtetl, oui. Par contre, en qualité, c'est moins bon.
Ça, je sais pas. Notre génération, c'est une génération qui est quand même très puissante, qui sort beaucoup de choses. Il y a quand même tellement, tellement de gens qui ont une puissance dans l'étude, une puissance dans l'enseignement. Ça existe. Regardez Rav Arieli. C'est le plus grand chiour du monde à Mir. C'est un chiour, c'est un cours absolument gigantesque, génial. On a dans la génération des génies. Mais ils sont à la fois des exemples sur le plan de leur travail personnel. Moi, je crois qu'on est dans une situation qui est bien lotie quand même, bien lotie. Et j'ai l'impression, quand on vient en Eretz Israël, on a pratiquement dans chaque immeuble quelqu'un qui a terminé la chasse, avec qui on peut parler de ce qu'on étudie. On peut attraper quelqu'un à la station de bus. Rav Intel, vous pouvez m'aider, je suis en train d'étudier ça. Je me souviens une fois, j'ai été pris dans une soulière de rouline, vraiment avec un truc très difficile. Il y a un type passé par là, qui était connu comme... J'ai attrapé dans la rue, j'ai dit voilà, 10 minutes. Il m'a dit ce soir on se retrouve, on s'est retrouvé à l'autre station de bus le soir, et on a terminé la discussion. Où on voit des choses pareilles. C'est Eretz Israël ça aujourd'hui.
Extraordinaire, vraiment des habitants. Je vous remercie. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Kabbalat Shabbat. Et nous sommes en ligne avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh. Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gueh. Alors, vous voulez-vous intervenir ce soir sur un passouk très précis où Hachem dit « Je me suis souvenu de mon alliance avec Avram et Yaakov ». Un problème, c'est pourquoi deux alors que nous en avons trois ? C'est-à-dire, il n'y a pas Yitzhak. Alors, forcément une raison, la Torah n'écrit pas les choses au hasard. Et c'est la réponse que vous allez nous donner maintenant.
Tout à fait. On va lire, si vous voulez bien ensemble, un verset dans le chapitre 26, verset 42. « Le Zacharti et Beriti Yaakov » donc « Je me suis souvenu de mon alliance avec Yaakov »« Ve'af et Beriti Yitzhak » et aussi « Mon alliance avec Yitzhak »« Ve'af et Beriti Avraham Eskor » et également « Mon alliance avec Avraham, je m'en rappellerai »« Ve'haaretz Eskor » et « Je me rappellerai de la terre » Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que à propos de Yaakov et à propos d'Abraham, on utilise le mot Vezacharti. Alors, chez Yaakov, c'est écrit Vezacharti, chez Abraham, c'est écrit Ezkor. On dit que la terre, Hachem, va s'en souvenir aussi de la terre, mais à propos de Yitzhak, on parle de l'alliance avec Yitzhak, mais pas d'un souvenir, Vezacharti. Je me suis souvenu de l'alliance avec Yitzhak. à propos d'Israël, ce n'est pas écrit. Et Rashi pose la question. La réponse de Rashi, c'est Efo shel Yitzhak nir'e lefanai tzavur umonach al hamizbeach. La cendre de Yitzhak est devant moi, m'apparaît devant moi, tzavur, réunie, donc rassemblée, et posée sur l'autel. Donc il y a une sorte de tas, le Hachem voit l'autel, le mizbeach, et il y voit la cendre de Yitzhak. Alors déjà, on comprend rien, puisque Yitzhak n'a pas été brûlé. Mais en quoi ça répond à la question? On ne comprend pas du tout de quoi on parle. Alors c'est pour ça que je suis venu vous expliquer aujourd'hui le sens de ce verset. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la cendre de Yitzhak est sur l'autel? C'est qu'en fait, vous le savez tous, Yitzhak n'a pas été égorgé, n'a pas été sacrifié, mais par contre, on a apporté un bélier, Abraham, son papa a amené un bélier à Haïl, à la place de son fils. Et chaque fois qu'il faisait quelque chose, une préparation ou le sacrifice lui-même avec le bélier, il disait que ce soit Yiratzon Mifanecha, qu'Hachem considère, et agrée le sacrifice du bélier, comme si j'avais apporté mon fils Yitzhak. Et donc Hachem dit, il n'a pas été apporté Yitzhak, mais c'est comme si. Alors, ce comme si, c'est la base de tout le livre de Vayikra, où on apporte des sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? C'est Hachem qui dit, vous apportez un sacrifice, je considère que c'est comme si vous vous étiez vous-même immolé sur l'autel, sur le Mizbéach, et donc vous êtes pardonné, puisqu'on fait le principe de la Tmoura, c'est-à-dire ça à la place de ça. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement magique et, ou mystérieux ou ésotérique, c'est quelque chose qui doit s'expliquer dans notre quotidien à nous aussi. Je m'explique. Tout simplement, lorsque Abraham n'importe pas son fils en sacrifice, c'est pas qu'il n'a, ça vient pas de lui. Il était prêt mentalement, sentimentalement, ce qui est beaucoup plus difficile encore, il était prêt à égorger, sacrifier, brûler son fils Yitzhak. Il était prêt à le faire et l'ange l'a arrêté juste in extremis, juste avant qu'il le fasse. Hachem dit, écoute, à partir du moment où tu es prêt à donner ce que tu as de plus cher pour mon nom, pour sanctifier mon nom, eh bien, mon désir à moi, Hachem, ce n'est pas que tu meurs, Al-Kiddush Hachem, ou que ton fils meure, Al-Kiddush Hachem, c'est qu'au contraire, qu'il vive, Al-Kiddush Hachem, qu'il vive pour sanctifier mon nom, donc il l'a épargné, et il apporte le bélier à la place, parce que tout simplement, le bélier associé à la prédisposition totale, à l'intention de la kavana, la ferveur d'Abraham, eh bien, c'est exactement comme si Yitzhak avait été apporté. Et c'est ce qu'Hachem attend de nous dans chaque sacrifice. Il ne veut pas qu'on se sacrifie soi-même, il veut tout simplement qu'on comprenne la gravité d'un acte et qu'on soit prêt à donner même notre vie pour la sanctification de son nom. Mais loin de lui de désirer cette mort, au contraire, il veut que les Juifs vivent et qu'ils vivent en sanctifiant son nom. Mais pas qu'il meure. Mais des fois, il n'y a pas le choix. Les hommes et les femmes qui sont morts pendant l'Inquisition, par exemple, ont donné leur vie pour la sanctification du nom divin. Et c'est une très grande mitzvah, bravo. Mais lorsqu'il s'agit de ce verset, « Vezacharti et Beriti Yaakov », je me suis souvenu de mon alliance avec Yaakov, lorsqu'on parle de l'alliance avec Yitzhak, on ne parle pas de Zechira, de souvenir, parce que la cendre est encore présente, c'est-à-dire Hachem voit le sacrifice d'Isaac comme quelque chose de permanent, une permanence dans l'histoire, quelque chose qui ne s'arrête jamais. La Akedat Yitzhak, c'est notre assurance vie à nous, le peuple juif. D'autant plus, je permets d'ajouter, que malheureusement, des sacrifices, encore aujourd'hui, se font pour la sanctification du nom divin. Encore aujourd'hui, des gens meurent pour protéger la terre d'Israël, pour protéger leurs frères en Israël, pour effectivement se battre contre des hommes qui veulent effacer le nom d'Israël de la terre. Et le fait de vouloir effacer le nom d'Israël de la terre, c'est quelque part effacer le nom d'Hachem, parce que le nom d'Hachem est associé à Israël et à personne, aucune autre nation. Et donc le fait de vouloir effacer Israël est une façon de chasser Hachem. Et donc chaque fois que quelqu'un meurt parce qu'il est en face de terroristes qui veulent tout simplement en finir avec Israël en général, hein, d'ailleurs n'importe quel juif au monde est menacé par des terroristes du Hamas, eh bien on doit se dire que c'est un sacrifice et que Hachem voit ce sacrifice comme si c'était devant lui. Le Afaro Munach al Mizbeach. Et dans le même verset, on nous dit que Yaakov est écrit d'une façon très bizarre, et c'est encore une fois Rashi qui le rappelle, il a un vav. En général, Yaakov s'écrit avec quatre lettres, le Yud, le Aïn, le Kouf et le Bet. Et dans ce verset-là, Yaakov, il a une lettre en plus, le Vav. Et Rashi nous dit, il y a cinq endroits où on trouve le Yaakov avec un Vav en plus. Et d'où il a pris ce Vav? Il l'a pris de Eliyahu. Parce qu'on trouve aussi cinq endroits où Eliyahu n'est pas écrit entier. Écrit Elia au lieu d'Eliyahu. En français, on appelle ça Elias. Elia au lieu d'Eliyahu. Donc, Yaakov a pris à cinq reprises le Vav d'Eliyahu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a pris en Eravon, dit Rashi. Eravon, ça veut dire un gage. De manière à ce que Eliyahu Hanavi s'engage absolument à annoncer la délivrance à ses enfants. Iné anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi ifne bo yom Adonai hagadol ve'anora. Dit le verset dans Malachi, chapitre 3, verset 23, donc à la fin de Malachi, la toute dernière prophétie, c'est Malachi, et les tout derniers versets, c'est ce verset, je vais envoyer devant vous, pour vous, Eliyahu Hanavi, avant que vienne le grand jour d'Hachem, le jour redoutable, c'est Eliyahu Hanavi qui va annoncer cette fin des temps. Alors en ce moment, on attend vraiment très, très, encore plus que d'habitude la fin des temps. Et Eliyahu Hanavi est très attendu. Yaakov lui a pris son vav comme une sorte de garantie. Vous imaginez bien que c'est une image que nos Chachamim veulent nous expliquer, que Yaakov Avinu, le dernier des Avot, effectivement c'est celui qui a vécu l'exil. Un exil très dur chez Lavan, puis après avec Essav. Il est l'homme qui sait se battre dans l'exil, et puis il a donné un fils qui s'appelle Yosef, qui va continuer son travail dans l'exil. Donc finalement, il est celui qui a organisé d'ailleurs Arvit. Ma'ariv, c'est Yaakov, Shacharit, Avraham, Yitzhak, Mincha. Yaakov, c'est Arvit. Arvit, c'est la nuit, c'est le Rocher, l'obscurité. Donc c'est celui qui se bat avec l'ange Essav jusqu'au lendemain matin. Donc c'est celui qui, entre guillemets, prépare ses descendants à vivre des moments difficiles dans l'exil et qui finalement nous explique comment traverser cet exil. Eh bien, ce même Yaakov, il va demander à Eliyahu Hanavi de venir, il faut qu'il vienne très très vite. Et ça, on associe ça à la force de Yitzhak. Yitzhak, le mérite d'Akedat Yitzhak est entier. On dit que sa cendre est présente, donc c'est encore une fois un gage. Et Avraham Avinu, évidemment, qui est notre ancêtre, qui est en fait le fondateur de tout ce que nous sommes. C'est lui qui est le chef, le Avam Aminim, le père de tous les croyants, le Balach Hesed, on sait tous. Et donc, grâce à ces Avot, Akadoshim, ces trois patriarches, Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous libérer, je vais vous sauver. Et là-bas, je vous rappelle que ce passage de Chukotai, qui nous fait très peur, parce qu'il y a 49 malédictions, elle nous dit que, finalement, la terre d'Israël sera toujours menacée par des ennemis. Et que c'est par le mérite de nos Avot qu'on va pouvoir retrouver cette terre, et que effectivement cette terre est toujours encore aujourd'hui. Et puis c'est le premier verset de la Torah où Rashi nous dit que les Umot Haolam, dans le premier verset de la Torah, dans le premier Rashi de la Torah, il nous dit que les peuples du monde diront: vous êtes des brigands. Vous avez pris une terre qui ne vous appartient pas. C'est incroyable de voir ce premier Rashi de la Torah comme il est d'actualité. Tout le monde entier nous dit mais non, vous n'avez pas droit à Eretz Israël. Finalement, c'est un peu ça qu'ils disent lorsqu'ils nous accusent de nous défendre contre le Hamas. Au fond, c'est tout simplement dire mais non, les Palestiniens ont droit sur la terre. Finalement, les Palestiniens le demandent toute la terre, hein, pas une moitié, pas une partie. On le sait très bien et ils le savent également. Donc finalement, vous n'avez pas le droit, vous êtes des bandits, vous êtes des voleurs. Pourquoi vous prenez la terre d'Israël? Alors Hachem a écrit Bereshit, Bara Elohim, c'est moi qui ai créé le monde, et c'est moi qui distribue cette terre, et c'est moi qui ai décidé de les donner à mes enfants. Donc tout ça nous fait beaucoup réfléchir dans cette période de trouble, et on essaye de se rappeler de la Gemara dans Megillah qui nous dit qu'on lit Bechukotai, et on essaye de se dire lorsqu'on lit Bechukotai, Tichle Shana Vekilotea, que l'année se termine avec ses malédictions. Donc c'est véritablement notre prière à tous, c'est que cette année se termine, vous allez me dire l'année se termine pas, on n'est pas à Rosh Hashanah, mais on est juste avant Shavuot, Et à Shavuot, c'est aussi un moment de jugement. On nous juge sur la Torah que l'on pourra étudier, la quantité, la qualité. Et donc, c'est aussi une forme de fin d'année. Alors, on demande très très fort cette année, plus que n'importe quelle année, que Akadosh Baruch Hu fasse qu'il se souvienne de cette alliance avec Yaakov, Yitzhak et Abraham, que Yaakov appelle très vite Eliyahu HaNavi pour qu'il vienne dès ce Motzei Shabbat, parce que vous savez qu'il ne vient pas vendredi, qu'il ne vient pas Shabbat, donc Motzei Shabbat qu'il vienne très vite, et que Hachem se rappelle de la cendre d'Yitzhak et que Hachem, tout simplement, nous redonne cette terre et qu'elle soit légitimée aux yeux de toutes les nations qui accepteront et reconnaîtront notre droit sur cette terre, nous qui portons le nom d'Hachem sur nous et qui espérons, en besoin d'Hachem, en être dignes, et c'est pour cela que ce Shabbat, plus qu'un autre Shabbat, faisons Teshuvah et disons-nous, voilà, nous voulons pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu, tu nous as donné la terre, nous la méritons parce que nous allons y vivre comme tu le désires, comme tu le souhaites, et s'il te plaît, fais en sorte que les goyim, les non-juifs, comprennent eux aussi que cette terre nous appartient définitivement et que tout simplement, cette guerre se termine très très très
Amen.
Vite.
Amen. Rav Guay, je profite de votre présence et de votre autorité pour dire quelque chose.
Je vous écoute.
Dans 15 jours, il y a des élections. Je vais vous donner deux exemples qui vous donneront, qui comprendront, qui vous feront, qui illustreront mon propos. Il y a un député qui en a traité un autre de porc.
Ouais.
Il a le droit d'être en désaccord avec lui, je vous le dis. Il a même le droit de le détester. En politique, on se déteste. Quand on est militant, on s'aime pas, on a son parti, on a son camp. Il n'aurait jamais dit ça à aucun autre député de toute sa vie. Il a dit ça à un député et on sait pourquoi. Il y a un autre député qui a dit hier, si vous êtes stagiaire, si vous êtes ouvrier, si vous êtes quoi que ce soit, débranchez tous les fils de TF1, c'est impossible de laisser parler Benjamin Netanyahu. Il aurait dit ça de aucun leader au monde, aucun dictateur, aucun personne. Il a dit ça d'un seul premier ministre de toute sa vie. Je pense que c'est important d'aller voter dans 15 jours. Et je le répète, je parle sous votre autorité, parce que pour le coup, on peut faire quelque chose. Voter à ces européennes, c'est un homme, une voix. C'est pas avec des circonscriptions où on dit, moi, de toute façon, mon député, il passe tout le temps, ou au contraire, il passera jamais. C'est un homme, une voix. Vous avez la possibilité, même si vous nous écoutez en ce moment en Israël, vous avez la possibilité de voter, vous êtes français, vous votez. Et une voix permet de lutter contre ces gens-là. Parce qu'ils sont à très peu, ils sont à 7% aujourd'hui. 7% d'intention de vote, c'est 5% d'intention de vote, il n'y a aucun député. Et par ailleurs, il y a une députée qui a des propos très ambigus par rapport au Hamas, qui est en 7e position, on peut faire en sorte qu'elle ne soit pas élue. Donc, je vous cède la parole, Rav.
Alors effectivement, c'est vrai que j'ai pensé ce que vous me dites. En général, bon, franchement, j'avoue que je n'ai pas toujours voté pour les européennes, mais que cette année, je suis très motivé et je motive tous ceux qui nous écoutent à le faire, parce qu'effectivement, on est dans une période très spéciale et il faut absolument que des voix comme que vous avez citées n'aient absolument pas voix au chapitre, parce que c'est véritablement des hommes et des femmes très haineuses envers notre communauté, malheureusement. Et on espère très vite que... On ne pensait pas que ces personnes n'ont pas été aussi virulentes lorsque Assad assassinait
son propre peuple.
Son propre peuple d'une façon, mais alors, enfin bon, on ne va même pas comparer. Assad, c'était un boucher et Netanyahou était le chef d'une démocratie qui se défend contre le terrorisme. Donc il n'y a même pas de comparaison à avoir. Et pour vous dire que vraiment, dans des situations où il y avait de quoi hurler, ben, personne n'était là. Et puis tout d'un coup, là, on devient des pourfendeurs de je ne sais quel... Malheureusement, on a bien compris, et cette hydre de l'antisémitisme qu'on espérait un petit peu, on va dire, derrière nous, elle l'est pas, parce que tout simplement, nos textes l'ont déjà dit, c'est quelque chose qui, au fond, voilà. Mais bon, Hachem, nous avons aussi des amis, des gens qui ont d'autres valeurs, et c'est dommage que une petite minorité fasse autant de bruit et autant d'écho. Alors que franchement, j'espère qu'ils sont une petite minorité.
Il y a des très très grands rabbins qui ont dit qu'il fallait voter. Le rabbi de Lubavitch, rabbi Moshe Feinstein, je me souviens qu'on avait posé la question à Rav Steinman, il a dit oui, on vote.
Oui, tant pis, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus qu'on a toujours conseillé d'aller voter. D'abord, c'est un devoir civique. C'est vrai qu'on est un peu moins motivé souvent pour les mesures européennes, mais cette année, on le sera plus.
Oui, parce qu'en plus, s'il y a un taux de participation qui est moindre, alors chaque voix est encore plus importante. Rav Guay, je vous remercie. Et je vous dis Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
boy na boy, Hashem lo yishmorihi, shav shokat shoy mai, Hashem lo yine bayis. Shalom lo boy na boy, Hashem lo yishmorihi, shav shokat shoy mai.